Bon, Cargo, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On se lance une petite partie ou...
Ouais, pourquoi pas? On va se faire une bonne petite soirée. Salut les gars, qu'est-ce que vous faites par ici?
Salut
Salut
Cyrus.
Cyrus. On s'apprêtait à faire un petit jeu.
Ah, ok.
Et toi, bien remis des scènes?
Bah ouais, bien rentré. On a joué à plein de jeux, c'était cool.
Quoi par exemple?
Bah vous avez pas encore écouté le débrief? Mais enfin, j'ai joué surtout à des jeux pas trop longs. En revanche, récemment là, j'ai joué à un jeu bien fat là.
Ah ouais? Et t'as joué à quoi?
Alors bah j'ai joué à The Great Zimbabwe. C'est un jeu de Splatterspielen. Je sais pas si vous voyez l'éditeur dont je parle.
Alors, dans ma tête, il y a une lumière jeu balèze qui s'allume.
C'est ça.
Mais non, je crois que j'ai jamais joué à un de leurs jeux.
Ouais. En fait, j'avais donc The Great Zimbabwe, c'est marrant parce que j'avais fait un début de partie en 2012 à Essen. Et justement, je me reposais la question de quand est-ce que j'étais allé à Essen pour la première fois, parce que les gens me demandaient, et puis j'arrivais pas à retrouver la date. Elle était 2012, 2013, je sais plus. Et donc c'est 2012, parce que le jeu date de 2012. Et bon ouais, c'est un éditeur qui fait des jeux quand même bien fat, hein. C'est toujours à peu près les mêmes hein, aux manettes, hein. C'est Jeroen Doumen et Joris Wierzynga. Et donc effectivement le jeu, hein, t'as raison, Cargo, il est toi qui aimes bien les poids BGG, il est à 3,68 quand même sur 5 sur BGG.
C'est beaucoup quand même. Là, faut un petit peu d'investissement,
C'est pas mal.
quoi.
Alors, investissement pas, tu vois pas, enfin. En fait, c'est marrant parce que les règles, elles sont pas si longues. Il doit y avoir 6-7 pages de règles. Alors, le jeu est pas à moi, hein. C'est à des amis, mais du coup, je lorgnais dessus depuis un moment, depuis que je savais qu'ils avaient acheté le jeu. Et ouais, t'as 6-7 pages de règles, sauf que tu vois, c'est les règles genre format A4, avec pas d'image, du texte. Pas écrit si petit quand même, hein. C'est que sur deux colonnes, mais bon, la rédaction est un peu, tu sais, c'est ces règles un peu linéaires. Donc quand tu veux revenir dedans, c'est pas évident, quoi.
Ouais.
Et alors, c'est du jeu, là c'est un peu du jeu de placement. Tu vas essayer de te positionner correctement sur le plateau. En fait, tu vas mettre en place des trucs qui fournissent des ressources. Sauf que c'est un peu comme dans Brass, si tu veux, tous les éléments ils sont mis en commun sur le plateau. Et du coup, quand tu poses un truc, c'est pas forcément, enfin c'est pas à toi quoi. Tu vois, c'est un peu tout le monde va pouvoir l'utiliser potentiellement. Donc tu vas mettre comme ça des spots de ressources, on va dire. En fait, c'est des artisans et je sais plus comment ils appellent ça dans le jeu, parce que j'ai confondu un peu tous les noms à un moment. Les noms n'étaient pas toujours très logiques alors.
Mais du coup, tu places quoi? Est-ce que Great Zimbabwe, je suppose que ça se passe en Afrique. Tu quoi? Tu places des animaux? Tu places des constructions? Tu places quoi?
Ouais, non, c'est des espèces de constructions, tu places des espèces d'ateliers en fait qui vont permettre de produire des ressources. Toi, tu vas produire des je sais pas des poteries, des choses comme ça, et ça permet de
D'accord.
construire des monuments. Bon, tu construis pas des monuments avec des poteries, tu vois. Mais, bon, il y
Il
a
en faut beaucoup quoi. Il en faut
ouais,
beaucoup.
il en faut beaucoup. Beaucoup de poteries pour faire des monuments en entier. Ouais, toi, c'est des poteries, des masques, des poteries, des bracelets, toi, bon, bref, tu comprends bien que tu construis pas vraiment des monuments avec ça, quoi. Mais en gros, c'est ces ressources-là qu'il faut réussir à acheminer. Et donc, t'as un système de, en fait, de portée. Évidemment, quand tu places un truc, toi, y a un moment, en fait, t'es un peu à l'étroit, quand même, sur cette carte. Et surtout, c'est le premier qui se sert d'une ressource dans une manche, qui l'utilise, et les autres peuvent plus l'utiliser. Donc il y a vraiment une tension sur le premier joueur. Il y a un système d'enchères en fait au début du tour pour déterminer qui sera premier joueur. Ça, tu payes en tête de bétail, qui sont des trucs que tu acquiers dans la partie. Voilà, il y a un système de revenus quoi en tête de bétail. Et ouais, ça crée un espèce d'écosystème comme ça, un petit peu ouais, je te dis un peu à la Brasse quoi, des jeux un peu comme ça. Avec un jeu qui est quand même assez punitif, tu vois, avec ce système où si tu passes après les autres, t'auras peut-être plus accès aux ressources. C'est un peu oppressant comme jeu, tu vois, à ce niveau-là. Il faut vraiment réussir à se placer correctement, à être dans le bon ordre de tour. Et le truc qui est pas mal intéressant aussi dans le jeu, c'est un système de course pour gagner. Donc, tu construis des monuments. Les monuments, en gros, ils vont se construire par étage. Donc au début c'est facile, tu veux construire un monument, t'as besoin d'une ressource, non t'as besoin de rien du tout pour construire un monument. Dès que tu vas construire son deuxième étage, il va te falloir acheminer nos ressources. Donc c'est juste un système de portée, il y a pas vraiment de, c'est pas du pick up and deliver, hein, ça, c'est pas tout comme ça. Au troisième étage, en fait, faut que tu achemines toujours le nombre de ressources sur lequel se trouve le monument pour le faire monter de 1. Donc, quand ton monument il est niveau 2, faut que tu achemines 2 ressources.
Donc quand tu dis acheminer, c'est-à-dire que tu as des ressources qui sont produites à un endroit et spatialement, il faut que tu les déplaces vers un autre endroit.
Non, non, parce que tu n'as pas besoin de les déplacer. C'est juste qu'il faut qu'elles soient à portée. Un système de portée, okay. Et à partir du moment où c'est dans la portée, ça marche. Et tu as des systèmes de relais aussi. Parce que les bâtiments que tu construis, c'est, alors, je crois que c'est les monuments justement que tu construis, servent aussi de relais. Et donc d'accord. Du coup, ils te permettent de, en gros, t'as une portée depuis le monument et tu peux acheminer comme ça avec les monuments des autres. Hein, puisque okay. Je rappelle, c'est toujours un truc où tout ce que tu construis. Alors les monuments t'appartiennent, mais tu vois, ils peuvent être utilisés par les autres. Quoi. Alors, en revanche, ça coûte à chaque fois que tu utilises des monuments, bah ça te coûte quoi. À chaque fois que tu utilises un relais.
Mais tu dois quand même avoir un bonus quand c'est ton monument, non?
Enfin, non, même pas. Non, je crois pas.
Ah,
non.
C'est sympa d'avoir construit cette auberge. Je vais m'y arrêter quelques instants.
En revanche, des bonus, oui, t'en as dans le jeu. Et c'est là que il y a un mécanisme assez intéressant dans The Grand Zimbabwe. C'est donc pour gagner la partie, c'est un système de course. Sauf qu'on va pas forcément tous devoir atteindre le même nombre de points. Okay. En fait, au début, on doit tous atteindre, je sais plus, c'est genre 20 ou 30 points. En fait, on va pouvoir prendre des bonus. On va pouvoir prêter une allégeance à un dieu, par exemple. On va pouvoir prendre des, je sais plus encore une fois, c'est des artisans, des, je sais plus quoi. Bref.
Bah, j'ai l'impression que t'es passé à côté du thème. Hein.
Ouais, non, mais c'est surtout que le vocabulaire, en fait, on s'est un peu mélangé. J'ai fait qu'une partie. Hein. On se mélangeait un petit peu le vocabulaire au début, des trucs qui n'étaient pas très très intuitifs au niveau du vocabulaire justement. Et donc du coup, on avait du mal à le retenir. Puis bon, en plus, c'est en anglais, donc après, il fallait traduire, bref. Mais ouais, le thème, non, effectivement, t'as raison, c'est pas le truc le plus marquant du jeu.
En même temps, si tu dis qu'il y a pas ou très peu d'images, c'est pas ce qui favorise l'immersion non plus.
Ouais, c'est, ouais, aussi. Et donc, ouais, tu vas prendre ces bonus, et c'est des bonus que tu vas avoir pour toute la partie. Donc, en gros, c'est des pouvoirs que tu vas acquérir, qui sont plutôt balèzes, quoi. Sauf que ça va te coûter, en points réalisés à la fin de la partie. Donc plus logiquement, plus tu prends un pouvoir fort et plus tu vas devoir faire des points à la fin de la partie pour le compenser si tu veux.
OK.
Bah du coup ça l'équilibre reste au même niveau ou pas alors?
Bah après
le
ça
le plus fort a plus de chemin à faire.
Oui c'est ça ouais. Enfin, théoriquement après franchement j'ai fait une partie donc je peux pas dire si le jeu est équilibré hein mais j'imagine qu'en tout cas ça a été pensé comme ça. Ouais. Donc du coup t'as des trucs du style tu peux avoir des pouvoirs qui améliorent ta portée, tu vois. Donc comme je disais, pour acheminer, faut que tu sois à une certaine portée, bah t'avais une joueuse, elle avait une portée améliorée, je sais plus si c'était le double, un truc comme ça. Des trucs qui te permettent de payer moins quand t'achètes des trucs. Il y avait un pouvoir, je me rappelle, qui te permet de construire des étages de monuments avec des ressources identiques. Normalement, faut que tu ailles chercher des ressources différentes en plus. Donc au premier coup ça va, hein. Il t'en faut une, après il t'en faut deux, mais quand il t'en faut des différentes, ça devient compliqué quand il t'en faut trois ou quatre quoi. En gros c'est avec ça que tu marques les points. Bref, donc ce système-là je l'avais vu aussi dans Council of Shadows. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de jouer à ça. C'est un jeu Alea qui est sorti il y a quelques années.
Non,
pas eu l'occasion non.
T'as un système comme ça en fait où tu acquiers des trucs et tu vas ton marqueur de fin de partie, en gros, il va reculer à chaque fois que tu vas acquérir des nouvelles techno. Et en gros, le principe du jeu, c'est d'essayer de rattraper ton marqueur. En plus, il faut le rattraper plusieurs fois dans la partie. Donc, la première fois, il est un peu moins... Enfin, il est pas trop loin. Puis, plus tu avances dans la partie, plus il est loin. Mais sauf que t'as un effet boule de neige, donc tu vas le rattraper très vite. J'avais beaucoup aimé ce système, là, dans Council of Shadows. Et du coup, là, j'ai trouvé ça pas mal aussi dans The Grand Zimbabwe. En fait, je me rappelais de ça, du début de partie que j'avais fait à Essen en 2012. Je me rappelais qu'il y avait ça, que c'était le tout vraiment assez intriguant dans le jeu. Et effectivement, c'est pas mal parce qu'en fait, tu te dis, il y a différents pouvoirs. Évidemment, si tu refais tes parties, tu vas pouvoir tenter de prendre d'autres pouvoirs et tenter de gérer autrement, quoi. Après, clairement, c'est un jeu.
Puis tu vas te demander si le pouvoir il vaut le coup, quoi.
Ouais, c'est ça.
Si c'est pour éloigner la cible, est-ce que à ce moment-là du jeu, c'est pas un peu bête de prendre ça?
Bah, il y a des timings, effectivement. Tu te dis, à la fin de la partie, c'est peut-être plus très intéressant. C'est comme tout, dans tout jeu de développement, tu sais, t'as des trucs, quand tu les fais, en début de partie, c'est bien. Tu les fais, milieu de partie, c'est moins bien. Quand tu les fais à la fin, ça sert à rien, quoi.
Bien sûr.
Voilà. Et là, comme t'as pas des trucs que tu acquiers qui font juste des points, parce que t'as des jeux comme ça aussi, t'acquiers des technos, des trucs comme ça, et t'as des trucs qui sont plutôt early game, plutôt des trucs qui sont pour le début, et des trucs qui sont plutôt pour la fin, tu vois, les trucs qui font des points, tu vas plutôt les mettre à la fin. Là, t'as pas de trucs comme ça, donc tu vas plutôt avoir tendance à effectivement prendre ces trucs-là au début de la partie. Ça va orienter ta stratégie, ta manière de jouer, et après tu vas jouer comme ça, quoi. Donc voilà, c'est intéressant effectivement. J'avais eu l'occasion de jouer à quoi chez eux, de à Food Chain Magnet. Je crois que c'est pareil, j'avais pas fait une partie complète. Mais, c'est des jeux exigeants, tu vois. Les règles sont pas triviales, c'est pas intuitif, mais bah tu vois, ça met en place des dynamiques, je trouve, qui sont quand même vachement intéressantes et que tu retrouves pas dans des jeux dans d'autres jeux, quoi.
C'est exigeant, c'est pas intuitif, il y a pas de thème. C'est là tu m'as excité vraiment, là je suis dedans.
Bah mais pourtant c'est ça te place dans des situations de jeu qui sont pas communes, quoi, tu vois. Et moi c'est ce que je recherche.
Ouais.
J'y jouerai pas tous les jours, hein, ce genre de jeu, mais la découverte était cool. Si on me repropose une partie, bon, il va falloir que je me remette bien dans les règles, mais ouais, ce serait ok, quoi.
Là, et au niveau, la partie a duré longtemps ou c'était encore un jeu à rallonge?
On a fait 2 bonnes heures et demie, on a dû quand même revenir pas mal dans les règles, c'est ce qui est annoncé.
Ah, mais ça va encore,
ils annoncent 2 heures et demie à, jusqu'à 5, on était 4, là.
Okay. Ah, mais ça va encore.
Oui, ça va encore. Mais clairement, on voit bien ce qu'on avait mieux maîtrisé les règles, on s'en serait sorti pour moins de temps que ça, quoi.
Ouais.
Et donc tu recommandes
Bah ouais, essayez, franchement. Enfin, je suis pas sûr que ce soit le plus complexe d'exploiteur. Tu vois, rien que cette dynamique de mon score à atteindre, il va dépendre des bonus que je me suis donné. C'est quand même pas commun. Je te dis, j'ai vu ça dans Council of Shadows, et à part ça, c'est... Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Après, voilà, mais c'est du placement un peu compliqué. Ça m'a fait penser un peu à Jour de marché sur la partie placement. Sauf qu'au Jour de marché, moi, j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup trop de hasard dedans. Ça m'avait trop saoulé. Alors que là, c'est plutôt le contraire. Là, il y a pas trop de hasard. Hein. C'est vraiment en fonction de ce que les autres font. Sinon, il y a zéro hasard. Hein. Il y a pas de tirage. Il y a juste des enchères et après comment les gens se placent. Et, c'est tout, quoi.
Et tu disais que c'était hyper punitif, mais du coup c'était punitif au point que genre à un moment quelqu'un peut être complètement largué de la partie et jamais revenir, ou c'est juste un tour dans l'eau complet, tu vois, où tu te dis merde, voilà, ils me sont passés devant, j'ai mal géré, mais
Ouais, tu vas devoir attendre un peu des tours pour soit réussir à te placer premier pour pouvoir faire des trucs, mais les autres vont prendre l'ascendant, quoi. J'ai fait qu'une partie, hein, c'est compliqué à dire, mais tu veux, en tout cas le fait de pas forcément bien maîtriser les règles et tout fait que tu peux te mettre dans des situations de où t'es mal, quoi. Tu t'es bloqué, quoi. Tu t'es un peu bloqué parce que les places deviennent chères et c'est pas forcément évident de revenir. Tu recrées pas du terrain comme ça, quoi, sur le jeu.
D'accord.
Bon, et toi, Martouf, t'as joué à quoi?
Eh ben moi, écoute, vu que on est plutôt automne hiver, mon assos de jeu est fermé pendant cette période-là. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, moi, je joue plutôt avec les enfants. Et donc là, j'ai ressorti un vieux jeu pour enfants qui est Sagaland.
Ah, oui.
Sagaland, c'est un Spiel des Jahres. C'est Alex Randolph. Et du coup, j'avais découvert ça et vous m'aviez donné envie avec le Pionfesseur grâce au sortant le grand jeu. Mm-hmm. Et j'ai eu l'occasion d'y jouer avec ma fille, ma grande. Et donc, alors Sagaland, pour rappel, on est sur un jeu de plateau avec de la mémoire. Donc on a des petits sapins, en dessous on a des symboles, on doit aller au château, et le château nous demande en ce moment un symbole, j'y vais, je dis c'est sous ce sapin-là, je le fais voir, et c'est bon, j'ai réussi, et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait tout trouvé. Donc ça, c'est la première partie. Le deuxième truc intéressant du jeu, c'est je lance 2 dés. Donc c'est un roll and move pour aller découvrir les choses. Mais je lance 2 dés et je vais faire les deux déplacements. Donc par exemple, j'ai fait un 3 et un 5. Donc je peux, si je veux, avancer de 5, puis avancer de 3, mais je peux avancer ou reculer. En fait, je me balade comme je veux sur le plateau. Par contre, il n'y a pas de sens de déplacement. Je dois juste faire mon déplacement jusqu'au bout, donc mes 5 jusqu'au bout dans un sens ou dans l'autre. Et il y a des tournants, et donc je peux tout, enfin, il y a des embranchements, et je choisis un embranchement. Puis je peux revenir en arrière ou continuer plus loin. Et donc, quand à la fin d'un des deux mouvements, je suis sur un endroit où il y a un sapin, ben là, je peux regarder. Donc, si je m'arrange bien, je peux m'arranger pour en voir deux, et ainsi de suite. Donc, tu as toute une mécanique où tu es en train de réfléchir à comment faire pour bien maximiser en te disant. Et donc, à chaque fois, en fait, quand tu lances tes dés, c'est tu regardes et tu te dis, en fonction de la situation où je suis, c'est quoi le meilleur déplacement, où est-ce que je pourrais aller, et machin.
En gros, tu fais des additions ou des soustractions, quoi.
Tu fais des additions ou des soustractions, exactement. C'est plutôt très sympa, en fait, parce que ce mouvement sur la carte là, et t'as l'impression d'avoir beaucoup plus de maîtrise, alors que bah t'as juste lancé tes dés et tu fais effectivement une soustraction ou une addition, mais t'as un fort sentiment de liberté. Le seul problème, c'est que le jeu est long et super punitif, parce que si je reviens sur la même case que si je tombe sur la même case au bout de mes deux mouvements que mon adversaire, il retourne à la case départ.
Mais de toute façon, on n'a pas assez de jeux pour que nos enfants ils pleurent. À chaque fois, il y a des trucs pour adoucir, on fait un machin, on fait un coop, on fait un bidule. Et ben non, voilà, t'as perdu. Voilà.
Comme les petits chevaux.
Voilà. C'est ça, t'avais fait tout le tour.
Allez, boum. Retourne en arrière. Donc t'as ça, et le truc, c'est qu'en plus, là où c'est mal géré, c'est les règles de base, c'est tu dois découvrir tous les sapins. Et ça prend un temps de dingue. Mmh. Et pareil, sur l'exactitude aussi, c'est trop chiant. Quand tu dois aller donner ta réponse au château, là, il faut que tu tombes pile poil. Et autant sur les sapins, tu vois, comme je te disais, bah, vu que tu choisis ton chemin, tu peux prendre des intersections et te dire, ah non, j'ai plutôt par là, parce que là, ça a mieux marché. Mais là, bah, juste, t'as pas fait le bon total avec tes dés, bah, t'es là, genre, bah, voilà, je vais pas donner la réponse. Mmh. Et puis, tu vois quelqu'un d'autre qui vient en faisant, oh, bah, il y va vite, alors qu'il a vu que deux sapins. Donc, j'ai une chance sur deux de tomber sur le bon et, bim, ta fille te pique la bonne réponse alors qu'elle ne l'a jamais vue. Et toi, tu savais. C'est dégueulasse. Oui. Par contre, c'est aussi l'aspect intéressant, c'est que tu peux faire des espèces de bluffs.
Ouais, ça te coûte du temps quand même.
C'est-à-dire que, alors voilà, c'est chaud, mais tu peux essayer de voir si l'autre, qu'est-ce qu'il a été voir, faire un pari sur où est-ce qu'il a été. Mmh. Sachant qu'aussi, ce que tu peux faire, si tu fais donc un double quelque chose, un double 1, double 2, enfin un double avec tes dés, tu peux te téléporter à un endroit plutôt près du château, mais surtout, en fait, l'action qui est la plus intéressante, c'est tu peux changer l'objet qui est demandé par le château à ce moment-là. Mmh. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est plutôt sympa, mais ça permet aussi de savoir ce que les autres savent ou ne savent pas. Parce que genre tu t'es fait chier à avoir déjà la moitié des sapins et d'un coup ce qu'on te demande tu l'as toujours pas trouvé, donc tu le dégages et l'autre se dit ok, il a fait plutôt cette partie là de la zone du jeu, il a visité cette partie là, moi j'étais parti sur l'autre, et du coup tu peux te dire ok, donc c'est pas dans ce coin là, c'est plutôt dans mon coin. Alors, voilà, tu peux faire des espèces de déductions comme ça pour aller plus vite et pas avoir besoin d'aller vraiment voir tous les sapins, mais se dire oh, celui là il l'a pas fait, moi non plus. On n'a pas l'air d'avoir la solution. Il y a des chances que ce soit le bon.
Et les sapins, ils restent fixes durant la partie ou il y a des mécaniques pour qu'ils soient échangés ou des trucs comme ça?
Ça peut s'échanger si tu fais un double, justement, encore une fois. Tu peux échanger plusieurs sapins. Mais alors là, c'est le moment où moi, j'ai pas inclus cette règle-là parce que, alors, déjà, au niveau de la mémoire, j'ai fait mes calculs, j'ai fait mes machins, tout à coup, je suis là, genre, attends, la botte du chaboté, c'est celui-là ou c'est celui-là? Ah merde, je sais plus du tout.
T'es vicieux, mais tu mets pas les règles qui te désavantagent, quoi. C'est ça que je comprends.
Ouais, pas au point.
Mais il y en a beaucoup. Il y en a tant que ça, des sapins?
Il y en a bien 12, je crois.
Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Moi, je crois que j'y avais joué peut-être aussi après le sortant de grand jeu. Mais ouais, j'ai mémoire que c'était long. Et là, tu vois, tu parles de subtilité, que des enfants de 4-5 ans, le jeu les donnait 4 ans. Les gamins, ils font pas ça. Hein.
Non. Oui. Non, non. Moi, c'est parce qu'elle est, elle a 6 ans et que du coup, elle adore faire des espèces de trucs. oui, des trucs vicieux, voilà. Mais sinon, non. Et puis aussi, là, on était deux. Le jeu propose de jouer à beaucoup plus. Ce qui doit être sympa, mais alors par contre, j'ai repensé à ces histoires de si je tombe sur toi, je te renvoie à la case départ. Ça doit tellement arriver de nombreuses fois. Enfin, ça doit être vraiment violent et du coup, le jeu doit s'éterniser. Personne n'avançant au niveau des sapins et du coup, ça n'avance pas. Enfin, la fin de partie ne s'approche pas, quoi.
Il est quand même donné de 30 à 60 minutes hein, le jeu. Hein. 30 à 60 minutes pour des gamins de 4 ans, mais jamais. Oui, en fait, à l'ancienne, c'était pour occuper les gamins les jours de pluie, quoi, tu vois.
C'est ça.
Sauf que bon, 4-5 ans, ouais, peut-être à 6-7 ans, oui, il n'y a pas de problème. Et peut-être ils vont le faire, ça. Ça remplace sûrement avantageusement les petits chevaux, mais... Ouais, moi j'avais pas trouvé ça.
Mais alors par contre, du coup, je suis resté sur cette histoire parce que je me souviens que vous aviez parlé de ça, que c'était le troisième top vente de Ravensburger en Allemagne en tout cas.
Dans ces eaux-là, je sais plus précisément. Dans ces eaux-là, tu as sûrement une meilleure mémoire que moi, ouais.
Mmh. Ouais, et donc je me dis que là, ça doit être l'effet nostalgie qui fait que le jeu se vend encore en Allemagne.
Bah peut-être comme des Monopoly, etc. quoi.
Ouais, c'est ça. C'est parce que les parents y ont joué, que c'est un souvenir de quand ils étaient petits, et du coup ils se disent ah vas-y, on va prendre ça.
La Madeleine de Proust à l'envers, quoi. Eh, y a pas de raison que j'ai souffert et que toi tu souffres pas, quoi. j'en avais fait un tour sur BGG. Vous dites 4 ans. J'ai trouvé une photo. Le gamin, il doit avoir 11 mois, tu vois. Il est tout potelé, etc.
Il n'a pas vraiment joué, je pense pas.
Il y a un mur de jeux de société derrière lui, quoi.
Ah bah il est très en avance alors. Ouais. Bah il est pas tout seul Randolph sur ce jeu là hein.
Non,
Michel Machos qui je sais pas s'il a fait grand chose d'autre lui. Il a fait quelques jeux dont des variantes de Sagaland. Donc pas grand chose d'autre. Ouais.
Mais ça a dû être c'est vraiment un gros truc, c'est sûr, parce que j'ai découvert, parce que quand j'avais cherché à l'obtenir, j'ai failli me faire avoir, il y a une version Happy Meal. Le jeu a quand même été passé par McDo. Hein. Donc, ça reste un... Mais donc, oui, non. Finalement, pas si bien que ça.
Des bonnes idées, mais... des bonnes possibilités, mais pas vraiment adaptées à cet âge-là, ces possibilités. Et puis, beaucoup trop long, quoi, pour ce que ça propose. Ouais. Ouais. Ok. Bon. Toi, Cargo, t'as fait des trucs sympas dernièrement hein.
Bah cet été en faisant un vide-grenier, parce que vous savez, moi à chaque fois que je fais des vide-greniers avec ma femme, elle cherche que de la poterie, des assiettes, des trucs lourds à me faire porter, et moi je scrute, je regarde est-ce qu'il y a des boîtes de jeux, souvent il y a pas grand chose.
Il y en a pas.
pas ceux que je fais en tout cas, je pense de l'avoir ailleurs. Mais entre deux boîtes de croque-carottes et de Monopoly, j'ai trouvé un jeu dont Paul Gara avait déjà parlé dans une émission. J'ai trouvé The Key. Meurtre au golf d'Oakdale. Alors The Key, oh, ça me parle ça. Jeu de déduction.
Super. Bah oui, en plus.
Attends, moi je prends tout de suite, j'en ai entendu parler, c'est bien. C'est un jeu à bas. Bon, le jeu en bas c'est plus connu pour les jeux enfants, mais je sais qu'ils avaient fait des jeux pour un peu plus grand. Celui-là, il est à partir de 8 ans. Jeu de déduction. OK, je prends.
Non, mais surtout ce qu'on veut savoir c'est combien tu l'as payé en brocante.
Ah, bah j'ai dû le payer 10 balles, je crois. Mais j'ai négocié un peu, hein. J'ai dû négocier un petit peu.
Trop cher, en brocante, c'est 5 euros, non?
Ouais, mais il était parti plus haut. Mais je me suis dit que j'arriverais à le revendre, celui-là. Et, contrairement à ton jeu, moi, mon jeu, il m'a pas trop plu. Pourtant, tu sais bien que moi, je suis un jeu déduction, d'habitude. Je suis quand même assez bon public. Parce que j'aime bien les jeux de déduction purs, hein, comme on appelle ça. Où il faut trouver la solution à une énigme à l'aide d'indices mathématiques, quoi. Et là, il y a une notion de temps réel dans le jeu, c'est-à-dire que donc il y a tous les détectives autour de la table. Alors il y a un petit lore qui est quand même assez sympa, je trouve. Alors il y a plusieurs boîtes. Celle que j'ai, c'est Meurtre au golf d'Oakdale. Donc il y a un univers de terrain de golf, de clubs comme ça, huppé. Et il y a eu 3 meurtres qui ont eu lieu. Et en fait, Alors, il y a un truc qui est bizarre dans l'histoire, c'est qu'ils ont déjà identifié 3 meurtriers. Donc, en fait, il y a 3 meurtres. On sait qui sont les 3 meurtriers, mais on sait pas qui a fait quoi. C'est tu dis, mais est-ce que c'est vraiment utile, après tout? Est-ce qu'il y a des meurtres qui sont plus importants que d'autres? Je sais pas. On fait juste les mettre, les 3 en tôle, hein. C'est pas ça.
C'est bon. Ah, déjà, non, déjà, non, c'est, là, quand, en fait... c'est quand même pas de bol, quand même.
C'est vrai.
Au même donc, moment, enfin, le même jour, il y a 3 oui. meurtres dans le golf, et c'est même alors, pas c'est, les mêmes assassins, pas... quoi.
Ah, alors non, c'est pas exactement au même moment. Parce qu'on sait qu'il y a un meurtre qui a eu lieu à 19h30, un meurtre qui a eu lieu à 20h, et un meurtre qui a eu lieu à 20h15. Donc c'est pas au même moment. Et donc il faut qu'on découvre qui est le tueur de chaque meurtre. Donc il faut qu'on trouve qui est le tueur. Il faut qu'on trouve à quel endroit. Parce qu'on sait où a eu lieu le meurtre, mais il faut qu'on trouve. Je sais pas pourquoi. Il faut qu'on trouve de quel endroit il est parti pour y parvenir et avec quelle voiturette de golf. Quelle voiturette de golf il a utilisé. Donc c'est un truc, c'est un peu bizarre. Mais pourquoi on a besoin de savoir ça? Je sais pas. Mais il y a 4 trucs à trouver à découvrir pour trouver les meurtriers et remporter la partie. Alors, dans le jeu, comment ça se passe? En fait, on a chacun un petit paravent avec différentes informations. On a un petit livret avec des informations sur les meurtriers. Par exemple, on a une espèce de bande de couleurs qui représente leur ADN. On a le plan du golf avec les différentes distances qu'il faut faire. Là, moi, j'avoue que ça partait plutôt bien. Je vois, quand même, ça a l'air plutôt intéressant. Moi, j'aime bien les petites distances, les cartes. On va essayer de voir est-ce qu'il a pu être là. C'était cool. Mais en fait, dans le jeu, il y a une notion de temps réel. C'est-à-dire que tous les indices ce sont des cartes qui sont entreposées en plein milieu de la table, en bordel. D'accord? Elles sont toutes face cachée, on ne voit pas les indices, mais vous imaginez, alors je dis peut-être une bêtise, mais genre 100 cartes, je sais plus combien il y en a exactement, qui sont toutes en bordel au milieu de la table, comme ça. Et en fait, quand on donne le go, eh ben, tu prends une carte, d'accord? Alors les cartes, il faut faire attention quand il y a plusieurs énigmes, on prend pas n'importe quelle carte, on prend celle qui correspond à ton énigme. Sinon, si toi tu fais l'énigme orange, si tu prends une carte sur laquelle il y a pas la couleur orange,
oh, c'est dommage.
Eh ben t'as quasiment perdu la partie parce que tu te seras gouré d'indices, l'indice sera faux. Donc faut faire un peu attention. Donc tu prends ton indice, tu regardes, il y a des indices qui sont un peu immédiats. On va dire, le personnage là n'a pas utilisé la voiturette bleue. Bon, bah c'est facile, hein, tu prends ton truc, il y a un petit Velleda, tu vas dire, le mec là, il a pas la voiture bleue. Facile. Et puis, il y en a qui sont un peu plus compliqués, où justement, il y a des trucs cool, on va dire que à 20h, ce personnage là, il était ici. Donc là, ok, tu dis, s'il était là, il a pas pu faire le meurtre de 20h, mais s'il était là... et que j'ai les distances, tu vas te mettre à réfléchir, est-ce qu'il a pu être à cet endroit du crime à 19h30, est-ce qu'il a eu assez de temps pour aller là à 20h, enfin, des trucs... Oui, parce que les meurtres aussi, ça c'est un truc bizarre, ils sont passés instantanément, d'accord? S'il était là-bas à 19h30, s'il était là-bas à 20h, qu'il a 30 minutes pour faire ça, le meurtre, il était instantané,
c'est prémédité en même temps, c'est pas... voilà quoi.
Ah, ils disent pas trop ça.
Ils disent pas trop jusqu'à là.
Et donc on prend plein d'indices. Les indices, ils vont avoir une certaine force, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être, qu'on a fait de gros indices avec des forces jusqu'à 4 et des faibles indices. Je crois que ça doit être un ou deux les plus petits. Où on dit que l'information va être de moindre importance. Et alors une fois donc tu prends les indices, tu les accumules, tu les rends pas, c'est-à-dire que tu les conserves. Et quand tu penses avoir trouvé, tu vas être le premier à prendre la clé au milieu pour dire « moi, je pense que j'ai trouvé ». Les autres font quand même leur enquête. Et une fois que tout le monde a dit que c'est bon, ils ont trouvé, tu vas convertir ta solution en code. Et dans le jeu, tu vas te servir de la clé sur un code existant pour regarder. Alors, il y a un petit truc, je trouve ça un peu chiant comme truc, mais bon, ça marche. Juste pour vérifier si t'as bon ou pas. Et donc, si t'as bon, t'as remporté la partie. Sachant que celui qui gagne, c'est pas forcément le plus rapide, c'est celui qui a utilisé le moins d'indices. Ouais, je dis que les indices avaient des forces, faut faire la somme et tout.
C'est pour ça, moi j'y avais joué. Je me rappelais cette histoire finalement de temps réel et de poids des indices là, mais surtout ce que j'avais pas aimé, c'est cette dynamique à la fin. Là. En fait, je comprends pas pourquoi on te fait jouer en temps réel si derrière.
Parce qu'en fait, on prend tellement d'indices. En fait, il est quand même assez. Moi j'ai fait 2 parties à la suite. On n'est pas tombé sur des scores exacts en fait. Je pense que pour tomber pile poil sur moi j'ai 14, toi t'as 14, comme j'ai fini avant toi, c'est moi qui démarre pour voir si j'ai la bonne réponse. Je pense que ça va être quand même assez rare quoi. Donc moi le temps réel dans un jeu de déduction, Moi, c'est pas un truc que j'aime parce que moi, j'aime bien me poser, réfléchir aux possibilités, etc. Et le fait de devoir me dépêcher, c'est un truc que je peux pas, tu vois. C'est, moi, je suis plutôt du genre à un peu saouler les gens parce que je réfléchis un peu trop à ce genre de jeu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que souvent en solo, ça marche, ça marche.
T'aimes bien, mais t'es mauvais, c'est ça que tu veux dire?
Ah, bah, mais je réfléchis longtemps. Donc ouais, le temps réel, c'est déjà pas trop mon truc. En plus, je trouve que déjà, toutes les cartes en plein milieu, il y a un aspect fouillis qui, en plus, avec le temps réel, fait que tu te précipites, fait que tu t'as du mal à, en plus, t'as du mal à prendre des notes. La feuille de notes, tu peux barrer des trucs, mais t'as du mal à écrire ce que tu voudrais écrire pour dire, bah ça, c'est pas possible avec ça, etc. Donc ça, je sais pas, moi, dans ma tête, j'ai un sentiment de bordel, en fait. J'ai un sentiment, je suis pas aussi carré que dans un jeu de déduction dont j'ai l'habitude, quoi.
Alors qu'en réalité, toi, tu pourrais, parce qu'en fait, le timing, c'est vraiment pas le plus important.
Oui, tout à fait.
Tu pourrais bien regarder le dos, parce que sur le dos des cartes, t'as la force de l'indice, mais je crois que t'as
Oui.
aussi la typologie ou un
C'est
truc comme ça,
ça, parce
non?
qu'en fait, il y a, comme j'ai dit, il y a quatre trucs à trouver, il y a quatre critères à trouver pour chaque meurtre, et en fait, tu sais que la carte là, elle est orange, donc bah, ça va correspondre à mon enquête, mais du coup, c'est un indice entre le lieu et le meurtrier. Tu vois, donc tu sais que si t'as le lieu mais t'as pas le meurtrier, bah tu vas prendre cette carte-là, peut-être que tu vas avoir un indice supplémentaire. Sauf que, ça c'est encore un truc que j'ai détesté, c'est que des fois à la fin de la partie, t'as accumulé plein d'indices et tu vois qu'il me manque pas grand-chose. Il me manque juste, bah, je sais juste pas si lui il était là ou si lui il a pris la voiture rouge. Je sais que lui et lui, comment dire, j'ai tout trouvé. Sauf que je ne sais pas si cette personne-là avait la voiture bleue ou rouge, et si cette personne-là avait la voiture bleue ou rouge. Tu vois, c'est genre, il faut juste trouver qui va avec quoi. Et du coup, tu prends un indice, tu fais, ah bah non, ça je le
Rien à
savais déjà.
voir.
Ah, bah ça je le savais déjà. Ah, bah ça je le savais déjà.
Oui,
Et
ou
en
c'est
fait.
sur la voiture verte, quoi, tu t'en fous.
Ben oui, mais et à chaque fois on te dit des trucs comme ça qui t'intéressent pas. Et du coup, tu te retrouves à pas piocher, je sais pas, 15 points, tu vois, 15 points pour rien. Et tu te dis, mais c'est pas possible, tu vois, ça va contre le jeu, on te pousse à aller chercher le moins d'indices possible. En fait, tu te dis, mais quand il te manque une info, tu pioches des trucs, parce que comme on conserve les cartes, vous vous doutez bien que la même information est présente à plein d'endroits, en fait. En fait, tu peux déduire des choses tout seul, ça c'est encore un truc que j'ai trouvé hyper frustrant, c'est qu'il y a des choses, tu t'es embêté à déduire. Tu dis, en combinant cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, en réfléchissant au trajet, je peux déduire ça, ça, ça. Ouah, t'es hyper content. Et du coup, je sais que le mec là, il a utilisé la voiture rouge. Super. Carte d'après, le mec là a utilisé la voiture rouge. C'est mal. Tu dis, je me suis embêté à faire des déductions, alors qu'en fait, si t'as un peu de chance, tu la pioches toute crue, quoi. Donc ça, c'est un peu, je trouve que c'est un, comme si c'est un peu un manque de reconnaissance pour quelqu'un qui s'est embêté à réfléchir. Tu vois, il y a des gens qui ont la réponse
Ouais,
trop facilement, quoi.
ça fait jeu de déduction avec un curseur hasard un peu trop, quoi.
Ah, c'est tout à fait, c'est ça, quoi.
Ouais, ok.
Donc ouais, une expérience pas hyper intéressant. À la limite, comme c'est à partir de 8 ans et que la déduction elle est quand même pas si compliquée que ça, mais qu'il y avait quand même des trucs intéressants. Je vous dis, il y avait les déplacements, il y a l'histoire de la montre, que des fois tu tombes sur des montres pétées et donc du coup tu dis bah ok, il faut que j'essaie de comprendre. La montre elle est un peu sale, donc j'essaie de comprendre à quelle heure elle s'est arrêtée la montre et tout. À la limite, peut-être la faire avec mes enfants. Tu vois, mais en mode coopératif. Genre, on essaie de piocher le moins d'indices possible en prenant notre temps. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Voilà, ça peut peut-être être intéressant. Surtout qu'il y a des indices qui vont te fournir une information directe et d'autres où tu dis, bah, celle-ci, je peux rien en faire, mais je la garde pour plus tard parce que en la combinant avec un autre indice, il pourra faire des
Peut-être
trucs,
que t'en
quoi.
feras quelque chose,
Mais sinon, en tout cas, moi, jouer, que ce soit même en solo, parce qu'il y a un truc avec des objectifs, je pense que j'y jouerai plus entre adultes ou en solo, quoi. Je montrerai sûrement mes enfants pour voir, mais après je vais essayer de leur vendre 10 balles comme je l'ai payé 10 balles.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a un jeu
Donc
qui va bientôt atterrir sur Ocasio.
ouais. Donc The Key. D'habitude j'aime plutôt les jeux en temps réel. Je trouve qu'il y a toujours une dynamique intéressante, mais là en jeu de déduction, je ne trouve
Ouais,
pas que ce soit
non, le
un
mariage a pas
mariage un
marché.
mariage heureux. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez déjà l'occasion. T'avais joué Bartouf, toi?
Non, pas eu l'occasion. Je le vois à la ludothèque là où je suis, mais j'ai juste vu, j'ai jamais passé le pas, tu vois.
Bah, on t'y invite pas spécialement, du coup.
Non, j'entends bien.
Non, c'est Thomas Singh, hein, l'auteur. C'est le
Ouais,
papa de The Crew,
ouais.
hein.
Bah, par rapport à The Crew,
Et de Circles.
et bah, par rapport à The Crew et Circles, et bah, c'est beaucoup moins bien. Voilà.
Et par rapport à la phase B de Circles.
Je pense que c'est quand même plus intéressant la petite pichenette de billes quand même. C'est quand même plus marrant.
Ok. Bon bah je vais vous laisser aller faire votre partie alors. On a papoté un peu, c'était sympa.
Ouais, on va lancer un bon jeu de déduction.
C'est ça.
Ok. Bon bah allez, salut les gars. Jouez bien.
Merci.